Les idées reçues de la psychanalyste Stéphanie Thor. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Hélène.
On s'installe autour de la table aujourd'hui, du petit déjeuner, du déjeuner, du dîner. Avec cette question, est-il essentiel de partager les repas en famille ?
Avez-vous une idée, Hélène, du temps que nous passons chaque jour à table pour nous restaurer ?
Un certain temps quand même.
2 heures et 22 minutes.
Quand même, oui.
En moyenne. Un record, disons plutôt une exception culturelle qui, au fil des décennies, nous encourage coûte que coûte à préserver nos pauses repas. Puisque nous nous attablons environ 100 000 fois au cours de notre existence, c'est vrai, autant en profiter et déguster. Avec toujours ce vieux présupposé en tête, le faire à plusieurs, c'est mieux. Pour la santé autant que pour le bien-être collectif. Les moralistes nous le serinent d'ailleurs à tout bout de champ. S'il n'y a pas de repas de famille, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de famille. C'est d'ailleurs aussi ce que pense Gwenaëlle du haut de ses 26 ans. Écoutez plutôt.
Je pense que oui, ça participe à la discussion parents-enfants et que ça apporte beaucoup de choses et que c'est un peu dommage de perdre ça. Même le repas du dimanche avec les grands-parents, ça crée du lien. Enfin, en tout cas, ça l'entretient.
Le repas du dimanche midi de Gwenaëlle. D'où nous vient donc cette certitude que manger ensemble est de l'ordre du sacré ? Pourquoi vantons-nous à ce point les vertus de la commensalité pour l'équilibre de la famille et de notre psyché, Stéphanie ?
L'origine de ce puissant a priori remonte sans doute à la fameuse scène du Nouveau Testament qui nous enjoint, depuis 2000 ans, à partager pour communier tous ensemble. Mais depuis quelques années, on peut aussi le raccrocher au fantasme si répandu de la famille ricorée. La nappe Vichy autour de laquelle tout le monde se presse en riant, vous vous souvenez,
hein ?
C'est si charmant. Sauf que si l'on est un tout petit peu honnête, on peut bien tenter de l'admettre. Dans la réalité, le repas familial est plus souvent l'occasion de se bouffer le nez qu'un pur moment de félicité.
Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire ?
Je vais bouillir 4 heures.
Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous.
Mais alors pourquoi insistons-nous et pourquoi est-ce qu'on en redemande de ces repas familiaux pourtant si compliqués parfois ?
Comme le souligne la psychanalyste Catherine Grangeard, qui est spécialiste des troubles de l'alimentation, la question soulevée par le cliché de la table collective est en fait celle de la norme. Or, parce que la norme s'attache au cas général sans s'attarder au cas particulier, nous devrions sans doute souvent l'interroger. Cette normalité du repas en commun est-elle vraiment adaptée à mon histoire, à mon foyer ? Et dans certains cas, la réponse ne fait pas un pli. L'injonction à manger ensemble n'est pas du tout fondée. Parce qu'elle néglige toute singularité, on peut même dire qu'elle est parfois largement critiquable. Combien de patients sur le divan, par exemple, racontent à quel point ces rendez-vous obligatoires autour du repas familial finissent par les gaver ? Telle cette épouse au petit appétit qui supportait difficilement les remarques désobligeantes de son mari. Ou bien le cas de cet ado qui redoutait toujours que s'expriment à table les conflits latents qui minaient ses parents.
Alors que préconise la psychanalyse ? Dire stop, que chacun mange comme il lui plaît ?
Disons que plutôt que de céder à la pression sociale, mieux vaut interroger son cas particulier et négocier de temps en temps le droit de s'échapper pour mieux se préserver. Car qu'on se le dise, manger en groupe, Hélène, c'est aucunement indispensable. Pour beaucoup, ce préjugé se révèle même fragilisant quand il faudrait au contraire trouver la force de se questionner. Pourquoi ces repas me semblent si compliqués ? Qu'est-ce que cela dit de nous tous ensemble ? Mais pour oser répondre, encore faut-il cesser de voir le repas commun comme une solution miracle pour resserrer les liens. D'où ce conseil de Catherine Grangeard, à l'heure de vous nourrir, redonnez donc de la valeur à votre liberté en regardant ce que vous mettez dans votre assiette, plutôt que de juger l'endroit où vous la posez.
Idée reçue et corrigée par Stéphanie Thor en partenariat avec Psychologie Magazine.